Décryptage, Anne Cantner.
L'histoire de l'Afrique mise à l'honneur au Collège de France à Paris, cette institution d'enseignement et de recherche, ouvre cette semaine un nouveau département, une chaire intitulée « Histoire et archéologie des mondes africains ». Une histoire encore méconnue et objet de nombreuses idées reçues sur lesquelles nous allons nous pencher pendant la prochaine demi-heure. Bienvenue dans Décryptage. Notre invité, le titulaire de cette nouvelle chaire dédiée à l'étude du continent africain, à l'histoire africaine. Bonjour François-Xavier Fauvel.
Bonjour.
Vous prononcerez demain votre leçon inaugurale au Collège de France, leçon à suivre en direct sur le site de l'institution à partir de 16h, temps universel. Merci d'être venu échanger avec nous sur ce sujet un peu en avance. Quel est l'objectif de cette nouvelle chaire ?
C'est de faire entrer l'histoire de l'Afrique au Collège de France, l'histoire de toutes les Afriques à toutes les périodes au Collège de France. Non pas que je sois spécialiste de tout, mais l'idée est d'utiliser cette chaire pour servir de plateforme en invitant des collègues de pays africains ou d'autres pays européens ou d'Amérique à venir partager les connaissances. Parce que c'est bien ça l'idée, c'est de mettre à disposition du public des connaissances qui ne sont pas forcément accessibles par le grand public, en particulier parce que d'abord, même s'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'histoire de l'Afrique et même s'il y a beaucoup de gens qui fouillent, qui font des fouilles archéologiques en Afrique, ces connaissances sont souvent partagées au sein de tout petits milieux qui sont quelquefois éclatés sur plusieurs continents et de gens qui ne se rencontrent qu'à l'occasion de colloques internationaux, ce qui fait que l'état des connaissances, même s'il existe, n'est pas forcément partagé et ne se rencontre pas sur Internet, par exemple. Donc il était temps d'amener au Collège de France un registre de savoir se rapportant à l'Afrique et de les rendre disponibles au public.
Oui, parce qu'on connaît très bien, du moins en Europe, certaines civilisations d'Afrique antique, par exemple l'Égypte des pharaons. On connaît aussi l'histoire des derniers siècles à partir de l'arrivée des Européens sur le continent. Mais entre les deux, c'est assez flou, ou plutôt assez obscur, François-Xavier Fauvel. Comment expliquer que ce pan de l'histoire africaine soit resté si longtemps méconnu ?
Oui, c'est vrai que les gens ont souvent comme ça des mots-clés qui leur viennent quand on parle d'histoire de l'Afrique. On a parfois entendu civilisation méroïtique, parce qu'il y a eu des expositions. On a parfois entendu royaume du Mali, parce qu'on en parle. On a parfois entendu côte Swahili ou civilisation Swahili. Bon. On a entendu Tombouctou, on a entendu des noms qui résonnent un peu magiquement de cette... Mais les savoirs ne sont souvent pas disponibles. On me le dit souvent quand je fais des interventions ou des conférences. Où peut-on trouver le livre qui va nous parler de ce que vous venez de nous dire ? Bon, ce livre, souvent, il n'existe pas parce qu'il n'a pas été fait, il n'a pas été écrit. Et les gens sont contraints d'aller chercher des très très vieux livres, parfois produits pendant la période coloniale. Ça dit plein de choses. Ça dit à la fois que les savoirs ne sont souvent pas disponibles au grand public, mais ça dit aussi qu'il y a un manque, qu'il y a un désir d'Afrique dans le public. Alors maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, pourquoi cette méconnaissance de l'histoire africaine, elle tient à plusieurs facteurs. D'abord, il y a un facteur idéologique qui s'enracine plusieurs siècles en arrière dans l'histoire de nos sociétés contemporaines et dans plusieurs siècles de déni de l'historicité et de la singularité des Africains en tant qu'individus et en tant que société.
Est-ce que ce déni a été utilisé pour légitimer en quelque sorte la colonisation ?
Non, je dirais même qu'il a déjà avant ça, plusieurs siècles avant ça, été utilisé pour légitimer la traite des esclaves. Parce que il y a quelque chose là qui accompagne la traite des esclaves que pratiquent, comme vous le savez, beaucoup de nations européennes à partir du début de l'époque moderne au 15e siècle jusqu'au 19e siècle. Et pour accompagner cette traite à très très grande échelle des hommes et des femmes, l'Occident produit une idéologie qui énonce tout simplement la déshumanisation des Africains et des Africaines et affirme qu'ils n'ont pas de singularité, ils n'ont pas d'épaisseur historique, bon, et en d'autres termes qu'ils n'ont pas d'histoire. Bon. Et voilà, là il y a une idéologie qui s'enracine, il y a un type de discours qui s'enracine et très très profondément dans le temps. Et alors même qu'aujourd'hui nos sociétés contemporaines sont débarrassées de l'esclavage, elles ne sont pas encore débarrassées de cette idéologie du déni.
Alors j'aimerais que l'on puisse partager avec nos auditeurs une partie de cette histoire africaine, de ces histoires africaines sur lesquelles vous travaillez. Vous avez publié il y a quelques années le livre « Le rhinocéros d'or » dont nous allons entendre un extrait.
À l'inconnu de la région d'origine de l'or s'ajoutent les récits merveilleux de sa récolte. Dans le pays de Ghana, écrit un auteur du début du Xe siècle, l'or pousse comme des plantes dans le sable, comme poussent les carottes. On le cueille au lever du soleil. Au milieu du XIVe siècle, le secrétaire de la chancellerie du Caire, Aloumari, relate sans sourciller ce qu'on lui a appris à ce sujet. On récolte deux variétés de plantes de l'or. L'une pousse au printemps, à la fin de la saison des pluies dans le désert. Elle a des feuilles semblables à celles de la grostis et ses racines sont de l'or. La seconde espèce se trouve toute l'année. On creuse des trous et on recueille des racines d'or ressemblant à des pierres ou à du gravier. On a pensé que de tels récits formaient un écran de légende artificiellement maintenu par les pouvoirs africains et musulmans d'Afrique de l'Ouest pour leurrer les partenaires commerciaux nord-africains afin que ceux-ci, leur eût-on indiqué l'emplacement des mines, ne cherchent à s'y approvisionner directement et à les contrôler. Mais outre que cet écran a pour principal effet d'attirer la curiosité, il y a fort à parier que, si les pouvoirs sahéliens étaient probablement un peu mieux informés que leurs partenaires nordistes sur la filière de l'or, ils ne disposaient en aucun cas d'un accès direct aux zones minières, ni n'avaient la capacité d'exercer une influence sur l'approvisionnement.
Extrait du chapitre intitulé « Le pays où l'or pousse comme des carottes », on y apprend qu'en fait, François-Xavier Fauvel, on ne sait pas vraiment où se trouvent les mines d'or au Moyen-Âge. Pourtant, le commerce de l'or est très important. Que sait-on de ce commerce ?
Oui, c'est très révélateur de la façon dont fonctionne, si je puis dire, l'histoire de l'Afrique. On croit savoir beaucoup de choses sur l'or africain. On croit savoir, et avec raison, que les pays du Sahel, en particulier, exportaient de l'or en direction du Nord, du monde islamique, du monde méditerranéen et de l'Europe. Ça, c'est vrai. Mais de quelle façon se passait ce commerce ? Quelles étapes techniques passaient cet or entre la poudre récoltée dans le sous-sol et puis les menées frappées du côté de la Méditerranée ? Qui étaient les acteurs de ce commerce ? Les quantités ? Où étaient les mines exactement ? Tout ça, en fait, on ne le sait pas précisément. Et on ne le sait pas, c'est un point sur lequel je veux insister, on ne le sait pas en raison même des conditions du commerce au Moyen-Âge. Et ces conditions du commerce au Moyen-Âge montrent bien que les acteurs africains avaient ce qu'on pourrait appeler une agencéité, étaient acteurs de leur propre histoire. En l'occurrence, c'est eux qui expliquaient aux marchands islamiques venus du Nord, arabes ou berbères, ce qu'il fallait penser sur les mines d'or. Bon. Mais inversement, on peut douter que eux-mêmes, les marchands, les marchands qui vendaient de l'or aux Arabes ou aux Berbères venus du Maghreb, eux-mêmes, il est très peu probable qu'ils aient su où étaient les mines d'or qui pouvaient se trouver quelques centaines de kilomètres dans l'arrière-pays du Mali, par exemple, ou du Ghana. Bref, ça illustre à la fois les conditions du commerce, les conditions de la circulation des connaissances, et puis ça illustre une autre chose aussi, qui sont ces mondes articulés. Voilà. On a un grand commerce transsaharien dans lequel les maîtres sont des Berbères, les Touaregs d'aujourd'hui, si vous voulez, qui vont depuis les ports du Maghreb jusque dans les ports du Sahel. Et puis, dans le Sahel, vous avez d'autres marchands, qui sont des marchands, en l'occurrence, malinqués, voilà, qui eux-mêmes traversent les zones du Sahel et des savanes. Et puis, plus au sud encore, vous avez d'autres acteurs qu'on connaît moins bien par les sources. Et tous ces mondes sont imbriqués les uns aux autres, articulés les uns aux autres, et nous donnent une très très bonne illustration de la façon dont les Afriques étaient articulées les unes aux autres, et dont l'Afrique était articulée au reste du monde.
Vous dites les Afriques, cela fait écho à une idée reçue que l'on entend assez régulièrement, qui serait de présenter l'Afrique comme une sorte de grand pays, alors qu'évidemment les histoires sont multiples et les parcours différents.
Oui, il y a effectivement dans le public cette fausse idée parfois que l'Afrique constitue une ère culturelle, et que cette Afrique aurait en quelque sorte une histoire, une trajectoire historique. En réalité, non, en réalité, il y a en Afrique, comme je le dis souvent, c'est un seul continent géographique, mais c'est plusieurs continents d'histoire, et très différents les uns des autres, par la documentation, par les systèmes d'écriture qui ont existé, par les langues qui sont parlées, par les formes de pouvoir qui ont été pratiquées. On y rencontre des royaumes ou des empires, on y rencontre des cités-états, on y rencontre des mondes qui sont des mondes de chasseurs-cueilleurs, lesquels chasseurs-cueilleurs sont nos contemporains et ne sont pas des vestiges de la préhistoire. Donc oui, il y a une diversité. Inversement, il ne faudrait pas non plus se laisser séduire par cette image de kaléidoscope scintillant, voilà, d'une diversité incontrôlable et qui ne serait finalement qu'une juxtaposition d'ethnies. Bon, non, pas du tout. Il y a dans l'histoire de l'Afrique des continents d'histoire qui se connaissent les uns les autres ou ne se connaissent pas les uns les autres, s'articulent les uns les autres, commerce, échange des idées, échange des produits et les échanges également avec le reste du monde.
Le nombre de langues qui sont parlées en Afrique, on estime à plus de 2000 le nombre de langues ou de dialectes qui sont parlées sur le continent. C'est un obstacle à la connaissance ?
C'est à la fois, alors effectivement, 2400 langues sont parlées aujourd'hui en Afrique, ce qui est absolument exceptionnel, hein, comparons tout simplement avec la situation de l'Europe, bon, où seulement quelques dizaines de langues sont parlées et qui toutes, à l'exception de deux ou trois isolats linguistiques, appartiennent à la même famille linguistique. En Afrique, on a 2400 langues qui appartiennent à cinq grandes familles linguistiques. Ça dit quelque chose de ce qui s'est passé dans l'histoire. Ça veut dire que les sociétés africaines ont fabriqué de la diversité, que les sociétés africaines ont fabriqué de la cohabitation entre elles, au lieu de s'homogénéiser, au lieu de produire de grandes nappes homogènes linguistiquement. Bon. Ça veut dire que quelque chose s'y est passé en Afrique, qui est très intéressant à observer en soi-même, mais qui est très intéressant aussi à observer pour mieux regarder ensuite dans d'autres régions du monde. L'histoire de l'Afrique, je le dis ça aussi souvent, voilà, est intéressante pour elle-même, mais aussi parce qu'elle permet de penser l'histoire du monde depuis l'Afrique.
Alors nous allons écouter un deuxième extrait de votre livre Le Rhinocéros d'Or.
Ces articulations sont des frontières entre des mondes aux codes culturels différents, mais dans le même temps des points d'échange de marchandises dont la valeur pour l'autre est reconnue. L'or, venu d'un sud inconnu du marchand, l'ambre, l'ivoire, les peaux, venues d'une côte peut-être hostile, circulent d'une antichambre à l'autre dans un système où ne se connaissent que les portiers. Les armateurs et les pilotes qui vont à Kambalou sont des Arabes d'Oman ou des Persans de Siraf. Al-Masoudi, qui a fait voile avec quelques-uns d'entre eux, mentionne les noms de ceux qu'il a connus et qui ont péri en mer. Ce sont eux qui, en cette première période du commerce islamique, organisent le commerce en mer d'Arabie, c'est-à-dire dans le nord de l'océan Indien, entre rivage africain et rivage indien, et même au-delà, jusqu'à la Chine. C'est bien en tout cas la direction que prend l'ivoire, qui transite par Oman, puis est embarqué à destination de l'Orient. En Inde, on en fait, dit Al-Masoudi, de grandes pièces de jeux d'échecs, des manches de poignards et des gardes d'épées. En Chine, des habitacles de palanquins pour les officiers civils et militaires, mais on le brûle aussi comme parfum sur les autels. C'est d'ailleurs peut-être la Chine qui, au sens propre, oriente ce commerce par la demande qu'elle crée et à laquelle ne répond plus l'offre d'ivoire asiatique, insuffisant en quantité et de plus petits modules que l'africain.
Al-Masoudi, qui est évoqué dans cet extrait, est un auteur de la première moitié du Xe siècle. Il nous parle de la mer des Anges, c'est-à-dire une partie de la côte est africaine, du sud de la Somalie au nord de la Tanzanie. Cet extrait montre, entre autres, à quel point le continent africain, ou du moins certains royaumes, s'inscrivent déjà au Moyen-Âge dans des échanges commerciaux avec le monde entier quasiment.
Oui, en l'occurrence, là vous avez raison, ce qu'on appelle la côte des Anges, donc effectivement cette portion de côte est africaine est en connexion assez tôt dans l'histoire avec les autres régions riveraines de l'océan Indien, la mer Rouge, la péninsule arabique, le golfe Persique, donc la Perse, et puis l'Inde, etc. Et effectivement, plus lointainement encore, l'horizon dernier, si on peut dire, c'est la Chine. Et du reste, on retrouve dans un certain nombre de sites archéologiques en Afrique, principalement sur la côte orientale, et dans les sites de l'intérieur, on trouve parfois des vestiges chinois, on retrouve de la porcelaine chinoise de différents types, notamment ce type très très beau et que les archéologues reconnaissent immédiatement, qu'on appelle du céladon, une espèce de céramique verte, très belle, qui montre effectivement des connexions. Alors, pour prendre le contre-pied tout de suite de ce que je viens de dire, ne nous laissons pas à nouveau leurrer par le vertige de ces rencontres. Il était très très rare que des Africains se rendent en Chine ou que des Chinois se rendent directement en Afrique orientale. Ce monde médiéval est un monde, j'y insiste, articulé, au sein duquel plusieurs mondes successifs s'emboîtent les uns les autres, et des castes de marchands, des nationalités de marchands, circulent à l'intérieur de ces réseaux marchands, et puis, arrivés au bout de ce réseau marchand, vendent leurs produits sur un seuil, voilà, et vendent leurs produits à un autre. Le monde médiéval global est un monde articulé, dans lequel les marchandises peuvent circuler d'un bout à l'autre du monde, mais pas les marchands.
Les extraits que l'on a entendus de votre livre montrent aussi, et cela contredit une autre idée reçue que l'on entend souvent à propos de l'Afrique, qui serait qu'elle aurait exclusivement une tradition orale. En fait, il existe des écrits de cette période.
Oui, vous avez raison. On a tendance à voir l'histoire de l'Afrique comme seulement fondée sur l'oralité et sur ce qu'on appelle les traditions orales. C'est oublier un petit peu vite qu'il y a des systèmes d'écriture en Afrique. Et c'est même plutôt leur diversité qui est étonnante. Si on pense à l'écriture hiéroglyphique, évidemment, mais au méroïtique, le copte et le grec qui ont été utilisés dans la vallée du Nil, l'arabe qui a servi à écrire la langue arabe, mais aussi toute une série d'autres langues africaines depuis la Houssa jusqu'au Malgache. Bon. Donc il y a une très très grande diversité de systèmes d'écriture, il y a une très très grande diversité également de cultures lettrées qui se sont développées en Éthiopie, la plus importante d'entre elles étant sans doute la culture lettrée éthiopienne qui, sans discontinuer depuis un millénaire et demi, a produit des dizaines de milliers de manuscrits, et dans certains cas, ces sociétés lettrées ont même développé des traditions historiques, hein, avec des clercs, des savants qui ont écrit des histoires dans leur langue. Des clercs africains qui ont écrit des histoires dans leur langue, et on en a des exemples aussi bien à Tombouctou au Mali que à Kilwa en Tanzanie, ou encore dans les voisins musulmans d'Éthiopie au Moyen-Âge.
François-Xavier Fouvel, je suis obligé de vous poser la question, pourquoi cette chaire n'est-elle pas attribuée à un historien africain? Je ne parle pas évidemment de légitimité, mais d'image, de symbole. Pourquoi vous, un Français, et pas un chercheur originaire du continent africain?
D'abord, je ne peux pas complètement répondre pour le Collège de France qui a fait une enquête. Vous savez comment ça se passe, hein, il y a une enquête qui dure plusieurs années, en l'occurrence l'enquête a duré 2 ans, autour de cet intitulé portant sur l'Afrique ancienne. Je crois savoir, je sais, ça a été dit dans la presse, qu'il y avait eu une enquête préalable portant sur un autre intitulé, celui d'une chaire contemporaine, pour laquelle plusieurs candidats d'origine africaine ou africaine ou africains avaient été identifiés et avaient décliné. Voilà, donc changeant son fusil d'épaule, le Collège de France a réorienté sa quête vers de l'histoire ancienne, et là on est beaucoup moins nombreux sur Terre à faire de l'histoire ancienne de l'Afrique, à avoir les compétences pour ça, et à faire également de l'archéologie. Donc c'est sans doute une partie de ce qui explique ce résultat.
J'ai lu dans la presse que vous envisagiez de créer un centre de recherche en Afrique de l'Ouest. Dans quelle mesure cela pourrait-il s'articuler avec votre travail au Collège de France?
Il faut que cela s'articule avec, et parce que je veux précisément prendre appui sur les moyens et sur qui vont m'être donnés, voilà, au Collège de France pour proposer quelque chose comme ça. Je voudrais que le Collège de France et ma chaire servent de plateforme, voilà, pour inviter des collègues, pour arriver à produire au Collège de France des états des connaissances, des synthèses qui n'existent pas aujourd'hui. Et pour cela, il faut se servir de l'outil qu'est le Collège de France, mais aussi penser à créer d'autres outils similaires ailleurs. Et effectivement, l'une des idées que je propose serait de créer, en partenariat avec des chercheurs d'Afrique de l'Ouest, un centre d'excellence dans un pays ouest-africain, un centre d'excellence où des chercheurs africains pourraient venir en résidence, ou des doctorants africains pourraient venir se former, ou des doctorants européens et américains pourraient venir aussi se former. Un centre qui aurait accès aux ressources, alors que c'est souvent pas le cas dans les pays africains. Je parle des ressources documentaires, hein, aux ressources financières, parce que l'archéologie coûte cher, et il faut aussi penser aux ressources financières, qui pourraient servir également de dépôts archéologiques et de centres de formation archéologique. Bref, voilà, quelque chose à penser, et plutôt que de penser toujours comme un aller-retour entre une périphérie africaine et des centres qui seraient dans le nord, inverser un petit peu la perspective et replacer un centre quelque part dans un pays d'Africain.
Merci beaucoup François-Xavier Fauvel d'avoir participé à cette émission. Historien, archéologue et titulaire de la nouvelle chaire Histoire et archéologie des mondes africains au Collège de France. Je précise pour nos auditeurs que vous prononcerez demain votre leçon inaugurale à 18h heure de Paris, et qu'il sera possible de suivre cette leçon en direct sur Internet sur le site du Collège de France. Décryptage était réalisé ce soir par Arès Siradag. Les extraits du livre Le rhinocéros d'or que vous avez entendu étaient lus par Cléa Broderst et Aurélien Devernois. Très bonne soirée à tous et à demain.